Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est une grâce de se retrouver dans la maison de Dieu, vous le savez? C'est une grâce. Heureux les hommes qui appartiennent à Jésus-Christ. Nous allons faire une lecture dans le prophète Osée. Au chapitre 10, nous voyons l'intention de Dieu de bénir. Pour qu'il puisse bénir, certaines choses doivent changer. Ça arrive souvent, Dieu est patient, Dieu s'y prend de plusieurs manières. Pour parler à quelqu'un, il est même capable de l'entraîner dans le désert. C'est écrit quelque part ça? Ouais. C'est pas facile, mais Dieu est capable d'utiliser toutes les possibilités pour pouvoir parler à quelqu'un. Il dit, d'ailleurs c'est dans Osée, je la tirerai dans le désert et là, je parlerai à son cœur. La volonté de Dieu, c'est de parler. C'est quelque chose d'extrêmement important. Votre cœur est-il ouvert? Votre cœur est-il endurci? Votre cœur est-il attentif? Votre cœur est-il soucieux de connaître la volonté de Dieu? Votre cœur est-il indifférent? On pourrait en mettre des qualificatifs pour exprimer combien le cœur de l'homme peut prendre une tournure ou une autre. Quand ça ne va pas, Dieu, il l'indique. Là, on voit dans Osée au chapitre 10, au verset 12, on voit bien ce que Dieu veut. On va voir ce qu'il veut. Ce qu'il nous demande et ce que lui veut. Osée chapitre 10, verset 12. Semez selon la justice. Regardez le résultat. Moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne. Est-ce que certains sont intéressés pour que Jésus vienne, pour que sa grâce se manifeste, pour qu'il répande sur vous sa justice? Sa justice représente bien sûr ça, la justification par le sang du Seigneur, mais également toute la bénédiction. Vous êtes intéressés par le fait que Dieu veuille répandre sur vous sa bénédiction? Oui, alors il faut que nous appliquions. C'est écrit plusieurs fois dans la Bible, de nous appliquer à travailler à notre salut, de nous appliquer, nous sommes dans les temps de la fin, peut-être que vous êtes en train de vous relâcher et Dieu n'est pas d'accord, peut-être que vous ne vous intéressez pas aux choses de Dieu, Dieu n'est pas d'accord, il faut que vous cherchiez Dieu, les chrétiens doivent chercher Dieu, mais les perdus doivent encore plus forte raison s'appliquer à le chercher. Ce texte nous parle de nous défricher un champ nouveau. Quand je lisais ce verset ce matin, je pensais au jardin d'à côté. Quand j'habitais à côté, j'ai retrouvé hier, je l'ai mis dans mon journal, une photo de mon jardin à côté quand j'y étais. C'était magnifique. J'y étais, j'avais le temps de m'en occuper. Et vous avez vu le pauvre petit jardin que c'est. J'aimerais me en occuper même. Mais comment ça va vite? Comment ça va vite? Il ne faut pas beaucoup de temps pour qu'un gazon bien entretenu, avec des fleurs bien tenues, etc., disparaissent. Il ne faut pas longtemps. Et si Dieu utilise l'image des terrains, de la semence, de l'agriculture d'une manière générale, pour la comparer à notre cœur, il ne faut pas beaucoup de temps pour que ça produise, mais il ne faut pas non plus beaucoup de temps pour que ça soit complètement sec. C'est pour cela qu'il nous faut veiller chaque jour. Le texte nous dit « Défrichez-vous un champ nouveau ». Dieu est pour les choses nouvelles. Alléluia. Les choses nouvelles, des choses nouvelles dans votre vie. Est-ce que ça vous intéresse, que Dieu fasse des choses nouvelles? Des projets nouveaux. Dimanche matin, Nathanaël nous rappelait ce texte de Jérémie lorsqu'il dit « Voilà, moi j'ai des projets de paix, d'espérance. » C'est bien des choses nouvelles que Dieu veut faire. Mais tout cela, ça nécessite une préparation. À quoi cela servirait-il que Dieu fasse pleuvoir sur un terrain endurci? Vous avez vu un terrain qui n'est pas travaillé? Il pleut la même quantité d'eau sur un terrain travaillé que sur un terrain qui n'est pas travaillé. Le terrain travaillé est vert, le terrain qui n'est pas travaillé est toujours sec. Pourquoi? Parce que l'eau ruisselle dessus, elle ne peut pas pénétrer à l'intérieur de ce même terrain. Mais c'est ce qui peut se passer ce soir dans l'église. Un cœur peut être tellement bien préparé qu'il va saisir la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, et quelqu'un va ne rien recevoir du tout. Je le vois bien à la sortie des cultes des fois, il y a des gens qui sortent en disant « Ah, ça m'a fait du bien, ça m'a restauré, ce matin j'ai appris ça ». Je me souviens d'une sœur qui n'est plus là, chaque dimanche, le monde, vous savez, les gens ils sortent et ils disent « Voilà, merci pour la prédication, merci, etc. » Vous avez 30 personnes qui sortent en vous disant « Merci ». Et puis cette sœur, tous les dimanches matin, « Monsieur Gau, le chauffage, il faudrait penser à le régler comme il faut ». Je dis « Écoutez, on en parlera avec les anciens ». tous les dimanches. L'été, la clim, elle est mal réglée. Alors, vous avez 30 personnes qui disent, merci, merci, mon cœur est touché. Et elle, non, votre chauffage, il fait trop chaud, il fait trop froid. Bon, une fois ou deux, ça peut arriver, après tout. Bon, pour contenter 250 personnes, c'est pas toujours facile. Et un jour, j'ai pensé, cette sœur, elle partira. Et c'est ce qui est arrivé. Elle ne retenait du culte que la température du local. Si vous ne trouvez pas que c'est triste, c'est triste quand même. Franchement, bon, c'est vrai qu'on peut améliorer, peut-être que quelqu'un soit trop froid, l'autre a trop chaud. Écoutez, c'est pas important ça. On passe qu'une heure ensemble, c'est pas important. Il y en a qui ont chaud devant et pourtant il fait frais. Il y a une préparation. Pour que Dieu envoie la pluie dans une église, pour que Dieu envoie la pluie dans un cœur, il faut une préparation. Il faut défricher. Vous avez tous vu des champs en friche. Dès que vous sortez de Toulouse, vous tombez sur des champs cultivés, vous tombez sur des champs abandonnés, etc. Et vous voyez vite la différence. Et votre cœur, comment est-il? Il n'y a que Dieu qui le voit, l'état de votre cœur. Vous êtes d'accord? Parce que justement, on prend soin du corps. Alors, ce n'est pas parce qu'on prend soin du corps que l'on prend soin de son âme. Alors, c'est vrai, comme quand on voit quelqu'un, on peut dire, oh, celui-là. Mais vous savez, des fois, vous discutez avec des gens, extérieurement, ils sont bien. Mais dès que vous discutez avec eux, vous voyez bien qu'intérieurement, ça va pas. C'est pas vrai? Vous êtes parfois étonné des propos que certaines personnes peuvent tenir alors qu'extérieurement, elles sont très très bien mises. Vous avez jamais remarqué ça? Et voilà. Eh bien, Dieu seul voit exactement dans quel état est votre terrain. En tous les cas, le terrain de votre cœur, Dieu, il veut le bénir. Et s'il vous dit, voilà comment vous devez semer, voilà comment vous devez faire, voilà comment vous devez procéder. S'il y a des épines, il faut les enlever. Il est dit, ne semez pas parmi les épines. Ne semez pas parmi les épines. C'est dans un autre texte où c'est écrit « Ne semez pas parmi les épines ». Vous savez, les épines, ça pousse tout seul. Il ne faut pas grand-chose pour que les épines poussent. Alors, nous occupons-nous de notre âme. Il y a un travail sur Toulouse, c'est la rentrée scolaire qui recommence. Il y a des milliers d'âmes perdues à Toulouse. Il y a peut-être même des milliers de rétrogrades. Sur Toulouse, il y a des milliers de besoins qui vont peut-être se présenter. Il y a des dizaines de milliers d'étudiants qui vont arriver dans les semaines à venir. Il y a peut-être des âmes perdues que Dieu va envoyer dans l'église. Comment allons-nous nous en occuper? Je me souviens, il y a 13 ans, le 30 août, ça fait 13 ans aujourd'hui. Je me rappelle, un mardi après-midi, j'étais venu, le matin, il y avait deux jeunes qui étaient venus me voir, deux jeunes étudiants. Ils étaient venus me voir, je m'en rappellerai toute ma vie parce que ça m'avait marqué. Voilà, monsieur Gou, on veut vous voir, on a une question à vous poser. Quel est votre programme? Le programme. Eh bien, je dis, écoutez, je ne sais pas. Je vous le dirai ce soir. En plus, j'avais passé plusieurs jours dans le jeûne et la prière, et Dieu ne m'avait pas donné de programme. Seigneur, est-ce qu'il est dans cette église, il faut un programme? Je n'avais pas encore discuté avec les anciens de l'église. Et je priais et j'étais tout le temps sur le texte des Vierges folles. J'avais dans mon cœur un programme, oui, celui d'être rempli du Saint-Esprit. Et je me rappelle à cette place ici, il y a 13 ans et peut-être 5 minutes, je me souviens, j'avais commencé mon ministère en disant, voilà mon programme. Il n'y a pas de programme. J'en ai quand même un. Soyez remplis du Saint-Esprit et que vos lampes soient pleines d'huile au cas où Jésus reviendrait nous chercher. Et je crois qu'il ne faut pas changer de cap, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Pour cela, il faut que notre cœur soit ouvert, il faut que notre cœur soit réceptif. Si nous ne nous occupons pas de nos âmes, nous aurons énormément de mal à nous occuper des âmes des autres. Et une terre qui n'est pas cultivée, qui est négligée, se remplit automatiquement de suite de mauvaises herbes. Il faut que nous nous appliquions à nous occuper de notre âme. Ce soir, est-ce que vous êtes satisfait de l'état de votre âme, de votre terrain? Est-ce que vous aimeriez porter davantage de fruits? Est-ce que vous dites, oui, moi Seigneur, je veux porter beaucoup de fruits? Vous savez, Jésus, dans Jean 15, il parle du fruit, de beaucoup de fruits, de encore plus de fruits. Vous connaissez Jean chapitre 15? On voit que quelqu'un qui demeure en Dieu va être amené à porter encore plus de fruits. Alors il y a des épines, il y a peut-être des mottes. Demandons au Seigneur de nous aider. Demandons au Seigneur de nous rappeler ce soir s'il n'y a pas quelque chose qui a pris le dessus. Cet été, est-ce que je ne me suis pas fait piéger par certaines choses, certaines choses du monde, etc. On pourrait lire dans Matthieu au chapitre 13 comment Jésus parle du terrain, des quatre sortes de terrain qui existent. Des cœurs durs, des cœurs épineux, des cœurs pierreux. Cette fameuse parabole que Jésus a donnée, ils n'ont pas compris. Vous savez, Jésus a adressé la parabole de Matthieu 13, verset 1 à verset 9. Et il termine au verset 9. Vous y êtes, Matthieu 13, verset 9. Donc il explique qu'un semeur est sorti pour semer, etc. Il parle de plusieurs sortes de terrains. Et au verset 9, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Il y avait comme un secret dans cette parabole. Et regardez, il y avait toute une foule. Regardez au verset 2. C'est important de voir, regardez, verset 2. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Donc, il y a une grande foule qui entend cette parabole. Et au verset 10, est-ce que cette foule s'approche? Non, les disciples s'approchèrent. Voyez, il y a toute une foule d'hommes et de femmes, et pourtant, il n'y a qu'un tout petit groupe qui va s'approcher de Jésus parce qu'ils ne sont pas satisfaits, ils veulent une explication. Est-ce que vous aimez avoir des explications de la part du Seigneur? Ou est-ce que vous dites, bon, c'est sa parole, j'ai rien compris, ben c'est comme ça, moi j'ai pas fait d'études? Ce n'est pas ça l'intelligence spirituelle. La compréhension ne dépend pas de l'intelligence. La compréhension, elle dépend de l'ouverture du cœur. Et si votre cœur est ouvert, vous comprendrez. Et voyez les disciples, hop, ils se sont approchés. Ça pourrait ne pas être écrit. Mais ça nous montre qu'il y a des gens qui ont soif. Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus, après du verset 11 au verset 23, va donner toute une explication parce que les disciples voulaient en savoir plus sur cette parabole qui contenait un secret. Comment porter du fruit? Comment porter beaucoup de fruits? Alors Jésus va expliquer qu'en fin de compte, vous savez, regardez, on va le lire quand même, on va lire l'explication, allez, on va la lire en entier. Verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a à méditer. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ils étaient en train d'avoir à 30 mètres d'eux le Créateur du monde en Christ, et ils n'en ont pas voulu l'entendre. Ça fait pitié presque. Franchement, qu'est-ce qu'on aurait donné aujourd'hui pour écouter une prédication du Seigneur Jésus-Christ dans sa présence? Et Jésus a dit non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, de peur qu'ils ne se convertissent, de peur que je ne les guérisse. Ils ne veulent pas de ma lumière, ils ne veulent pas de mon amour. Oh, j'espère que ce soir, nous voulons de sa faveur, de sa bonté, de sa miséricorde. Verset 16, « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Mais ça c'est sûr. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Tous auraient pu entendre. Tous. Il n'y en a qu'un petit groupe qui a entendu. Et nous aujourd'hui, parce que c'est retransmis dans la Bible pour ceux qui ont soif. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Premier terrain. Deuxième terrain, ou deuxième cœur. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Troisième terrain. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et quatrième terrain, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Quatre terrains qui représentent quatre sortes de cœurs. Le premier, il écoute, il comprend pas. Le dernier, il écoute et il comprend. D'où cela vient-il ? Comment cela se fait-il? Dieu a-t-il créé des cœurs durs? Dieu a-t-il créé des cœurs tendres? Dieu serait-il injuste dans le cœur des hommes? Pourquoi y a-t-il des cœurs qui comprennent? Pourquoi y a-t-il des cœurs qui ne comprennent pas? Pourquoi des cœurs sont remplis de pierres? Pourquoi d'autres terrains sont remplis d'épines? Pourquoi ces choses-là? Eh bien, en vérité, c'est le choix qu'on fait. C'est un choix qu'on fait. Un terrain qui reçoit la semence, un terrain qui est perméable, c'est un terrain qui est travaillé. C'est un terrain qui a entendu que Dieu voulait que nous nous mettions au travail. Qu'est-ce que vous diriez d'un laboureur qui reste là en disant « Moi, je fais rien, Dieu est puissant, s'il veut qu'il y ait du blé, il y aura du blé. Dieu est puissant. » Il y a des gens comme ça, vous voyez ?« Seigneur, tu fais tout. » Vous croyez que c'est sérieux, ça? Il y a des cultivateurs sérieux, ils passent la charrue, dès qu'il pleut, hop, la charrue, la herse, etc., etc., ils sèment. Après, ils s'en remettent à Dieu. Après, ils disent « Seigneur, tu vois, j'ai fait ma part. » Fais la tienne. Mais on dirait qu'un cultivateur, il est fou s'il attendait que Dieu fasse tout. On dirait qu'il est fou. Et il y a des chrétiens qui sont fous. Parce que Dieu dit, préparez le terrain. Et ce n'est pas lui qui va le faire. Si Dieu nous demande quelque chose, il faut le faire. Et chaque fois que vous lisez la Bible, avec le cœur contrit, vrai, honnête, avec un cœur dit, voilà, Seigneur, ce que tu dis, c'est important. Je relis pour la 32e fois l'évangile de Matthieu, mais je te prie de me parler, Seigneur. Dans Luc 8, elle est reprise cette parabole. Et regardez ce cœur qui est bon, ce cœur qui porte du fruit, ce cœur que vous voulez avoir, certainement. Je pense que beaucoup, vous êtes là ce soir, vous dites, mais Seigneur, je veux porter du fruit. Quand je passerai devant toi, je veux être chargé de fruits, non? On ne veut pas des récompenses, mais quand même, on a envie de glorifier son nom. Il n'est pas glorifié, le Seigneur, quand on porte du fruit? Hein, oui. Regardez, verset 15, Luc 8, 15, donc c'est le quatrième terrain. « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui... » Alors, on voit la clé. « Ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Vous voyez quelqu'un qui a un cœur bon, un cœur honnête. Si Dieu l'a dit, c'est important. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne croient même plus au retour de Jésus-Christ. Et les chrétiens, vous leur dites, vous croyez que Jésus va revenir? Non, je ne crois pas. Mais vous avez vu, la Bible est remplie, tous les évangiles, toutes les lettres de Matthieu, et même l'Ancien Testament, à l'Apocalypse, 136 textes dans le Nouveau Testament nous parlent du retour de Jésus-Christ. Je crois que ça va se passer. Et même, il n'y en aurait qu'un, est-ce que ça suffirait? Ben oui. Et Jésus a pris soin d'inspirer tous les apôtres, tous les prophètes, tous les évangélistes, pour que l'on sache que Jésus va revenir. Je suis désolé, mais une fois qu'on a accepté Jésus-Christ, un cœur honnête croit que Jésus va revenir. Un cœur honnête, un cœur bon. Un cœur bon, c'est quelqu'un qui dit, ah ça c'est vrai, Jésus l'a dit, c'est important. Il y a des mottes dans mon cœur, il faut les briser. Un agriculteur, il le fait. Il le fait, et il y a des pierres qui remontent, et il y a des grosses pierres qui remontent, et il les enlève, il prend patience. La Bible parle de la patience du laboureur. Il faut patienter et lire la parole de Dieu. Il viendra vous aider. Il y a peut-être des pierres à l'intérieur de votre cœur. Les pierres, on l'a lu, ce sont les soucis. Ah, les soucis du siècle. Je vais vous dire, des soucis, il y en aura de plus en plus. C'est pas vrai? Oui, de plus en plus. Vous en avez des soucis? Il y a les petits bobos, les petits tracas, il y a les gros soucis. Et la Bible nous demande de faire quelque chose de très simple. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et débrouillez-vous. C'est comme ça que c'est écrit? C'est écrit comment? Ah oui, c'est vrai. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de l'irresponsabilité, c'est ça un cœur bon. Tu me dis que tu prendras soin de moi, je le crois. Alors des petits soucis et des gros soucis, je me décharge sur toi Seigneur de tous mes soucis. Car lui-même prendra soin de vous. Des soucis, il y en a, et il y en aura d'autres. Ça peut arriver, ça vient là, un enfant qui est malade. Est-ce que c'est normal d'avoir du souci quand un enfant est malade? Mais bien sûr, un problème au travail, un problème relationnel, un problème conflictuel, un problème dans le couple, un problème dans l'église. Est-ce que ça peut arriver d'avoir un problème dans l'église? Mais bien sûr, déchargez-vous de tous vos soucis, car si vous ne vous en déchargez pas, ces soucis, ils vous détruiront. Vous avez vu, à cause les soucis du siècle. Dans un autre texte, il est dit, la séduction des richesses, je ne sais plus si c'est dans Luc ou si c'est dans Matthieu, non, ça on est dans Matthieu, dans Luc ou dans Marc, il est parlé de l'invasion des convoitises. Vous ne croyez pas qu'on est envahi de choses mauvaises? Et combien les jeunes aujourd'hui... Moi, vous voyez, je suis sorti de la jeunesse, vous avez rendu compte. Mais quelque part, je plains les jeunes. Tout ce qu'ils ont à leur disposition. L'invasion des convoitises. Combien de jeunes aujourd'hui sont endurcis à cause de ces jeux? Ils passent des jeunes chrétiens. Des jeux où il faut tuer des gens. Moi, je suis extrêmement choqué quand je vois la quantité de jeunes chrétiens qui jouent avec ces jeux, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Des jeux où il faut tuer les gens. Soif de... L'autre jour, je regardais dans un jeu, sur la présentation d'un jeu, si vous avez soif de vengeance, il fallait tuer les gens, si vous avez soif de sang, ce jeu est pour vous. Et il y a des chrétiens qui jouent à ces jeux. L'invasion des convoitises feront que votre cœur s'endurcira. C'est une loi. Là, si Dieu compare notre cœur à un terrain, si Dieu parle continuellement de la loi de la semence, c'est une loi. Si votre cœur est envahi par les convoitises du monde, votre cœur s'endurcira. Il y aura plein d'épines et rien ne pourra pousser. Et cette semence bénie que nous partageons encore ce soir, vous l'entendrez, vous serez d'accord parce que vous avez vu au verset 20, il y a un paradoxe. C'est une affaire de folie, ça. C'est-à-dire que certaines personnes qui ont le cœur empierré, plein d'épines, ils peuvent écouter la parole de Dieu avec joie. Regardez, celui qui a la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit. Comment il la reçoit? Aussitôt, avec joie. Alors c'est ça, on a l'impression que c'est gagné. Il écoute la parole, il a de la joie à recevoir la parole de Dieu. Oui, parce qu'il y a une joie. On le sait que la parole de Dieu, elle est bénie. On le sait que la parole de Dieu, elle est vivante. On le sait que la parole de Dieu, c'est la vérité, etc. Donc, il y a quelque part, même pour celui qui ne va pas bien, une vraie joie à écouter la parole de Dieu. Il écoute avec joie. Mais voyez, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est bien d'écouter avec joie, oui, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas dire, ah, c'est une bonne prédication. Combien de gens m'ont dit, ah, j'ai entendu une bonne prédication. À quoi ça a servi? À rien. Pourquoi? Parce que leur cœur est plein de pierres et ils ne prennent pas le temps de dire, ah, cette pierre, elle est là. Vous voyez, les pierres, ce sont des choses, des problèmes cachés qu'on ne voit pas. Vous avez peut-être un problème, il y a des gens qui ont subi des traumatismes, qui ont subi des affaires graves. Seigneur, je dépose. Il y a des gens, ils sont pleins de haine. Moi, je suis content que quand je me suis converti, j'avais de la haine pour mon père. J'avais de la haine, il était méchant. Il était toujours méchant. Et je sais que le soir de ma conversion, je savais que de toute façon, ma conversion ne pourrait pas tenir une semaine si je gardais la haine dans mon cœur. Enfin, je vous dis, je ne l'avais pas lu. Mais il y a des choses, on le sait ou on ne le sait pas? On le sait par déduction, par c'est logique. Et je me souviens, la joie que j'ai eue, là, dans un moment dans la prière, dire, je pardonne mon père. J'étais tout content. Je savais, et c'était comme une pierre qui est sortie de mon cœur. La haine, si vous avez de la haine, ça vous détruira. On s'est tous fait piéger par des relations difficiles. Seigneur, je dépose la haine. Que toute amertume disparaisse du milieu de vous. C'est écrit? C'est écrit pourquoi? Parce qu'on va attrister le Saint-Esprit. Et c'est ça. Alors on reçoit la parole de Dieu avec joie. Et de l'autre côté, on attriste le Saint-Esprit. Et il y a une espèce d'ambiguïté dans notre cœur, un combat. On se lève, on est malheureux, on se couche, on est content, ou l'inverse. Il y a tout ce combat intérieur. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui dit, voilà, moi je suis là pour vous aider. Si vous semez comme il faut, vous moissonnerez selon la miséricorde. On l'a lu. Oui ou non? C'est comme ça. Vous semez. Eh bien, vous allez voir comment vous allez moissonner. La miséricorde, on en a parlé, je ne sais plus quand, jeudi dernier. La miséricorde, c'est que Dieu est bon. Voilà. Approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde. La miséricorde, c'est la première chose dont on a besoin. On a peut-être besoin de guérison physique. Vous avez peut-être besoin d'un travail. Que Dieu vous l'accorde. Que Dieu vous accorde la guérison. Que Dieu vous accorde tel exaucement. Mais à quoi cela servirait-il, la guérison, l'exaucement, le boulot ou n'importe quoi d'autre, si vous n'êtes pas au bénéfice du pardon de vos péchés, de la miséricorde divine? Oui, semer selon la justice. Ça veut dire, je fais ce qui est juste. Dieu me dit ce soir qu'il y a des pierres dans mon cœur. Je m'autorise à les garder parce que je justifie mon péché. Je justifie ce péché, c'est des pierres, c'est caché, ça se voit pas, c'est des trucs qu'on fait à la maison tout seul, c'est des trucs qu'on regarde, des cochonneries. Ce sont des pierres que rien d'impur ni de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. Il y a des choses, il faut s'en débarrasser. Seigneur, tu vois, aide-moi si c'est une grosse pierre. Eh bien, demandez de l'aide. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un prier pour moi, prier avec moi? Est-ce que c'est interdit? C'est écrit prier les uns pour les autres ou c'est écrit prier chacun pour soi? Est-ce qu'on peut prier pour les autres? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, aide-moi, je traverse une épreuve, puis tu sais, dans mon cœur, ou ce soir j'ai été interpellé, dans mon cœur, tu sais, j'ai de l'amertume pour telle personne, prie pour moi pour que Dieu m'aide à la pardonner. Eh bien, Dieu va vous aider. Quand vous lisez un texte, quand on est familiarisé, quand même, je commence un peu à être familiarisé avec certains textes bibliques, et quand on les lit la première fois, ne semez pas parmi les épines, etc., défrichez-vous un champ nouveau, on pourrait se dire, oulala, ça va barder, mais non. Pourquoi Dieu dit ça? Mais pour qu'il répande sa bénédiction, pour qu'il bénisse vraiment, pour qu'il puisse nous bénir vraiment, ou pour que la pluie qu'il va envoyer puisse vraiment pénétrer. À quoi ça sert? Vous sèmeriez du blé là sur le carrelage? Qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un qui amènerait du blé là dans l'église, qui le promènerait là, et qui avec l'arrosoir, regardez, j'ai la foi, le blé va pousser dans l'église. Vous allez lui dire, là-bas, il soigne. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça sert à rien. Et semer dans un cœur dur, semer parmi les épines, ça sert à rien. Et si dans votre cœur, il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu est en train de vous le montrer. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me débarrasser de ce travers. Aide-moi à me débarrasser de l'avarice, de la cupidité. Peut-être c'est la timidité qui prend le dessus. Dieu vous appelle peut-être à le servir. Et la timidité est en train, comme des épines, de vous envahir. C'est terrible la timidité. Mais croyez-vous pas que le Saint-Esprit peut nous donner un esprit de force, d'amour et de sagesse? Il y a toutes sortes d'épines, ce qui étouffe la parole. C'est peut-être la télévision. La télévision, moi je la regarde de temps en temps, les infos, des fois une émission, un truc qui me plaît. Ça ne m'étouffe pas. Il y a des chrétiens, ils sont étouffés par la télévision. Ils sont étouffés par Internet. Ils sont étouffés par le plaisir, parce qu'ils aiment le plaisir plus que Dieu. Est-ce que c'est bien d'avoir un peu de plaisir? Est-ce que Dieu est pour la détente? Mais bien sûr. Mais lorsque toutes ces choses envahissent le cœur, elles finissent par nous étouffer. Et Dieu pourrait dire, mais ça ne sert à rien que j'envoie la pluie. Ça va glisser comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ça ne servira strictement à rien. Est-ce que vous croyez vraiment que lorsqu'on prie, lorsqu'on se recueille, le Seigneur est capable, par le Saint-Esprit, de nous montrer certaines choses? Est-ce que vous le croyez vraiment? Que le Saint-Esprit est capable. Je me souviens de cette fois où le Saint-Esprit m'a montré vraiment quelque chose que j'avais fait avant ma conversion. Pourtant, je savais que c'était pardonné. Je savais que quand on se repent, est-ce que Dieu pardonne tout? Tout. Mais il se peut que Dieu, pour ses raisons à lui, nous conduise à devoir régler des choses que l'on a fait avant sa conversion. Une fois, j'en parlais avec monsieur qui me parlait d'une affaire qu'il a dû régler. Combien de temps après votre conversion? 30 ans ou 40 ans, je sais pas. Hein? Voilà, ou plus. Vous savez, Dieu peut nous éprouver de temps en temps. Est-ce que c'est vrai? Moi, Dieu m'avait montré un truc que j'avais volé dans un magasin, il a fallu que je le ramène. Oui, c'est une télévision. C'était bien à l'époque. Une télé, ouais. Oui, mais... Eh bien, voyez, non, c'est pas rien. C'est pas grande. C'était petite. On rit, mais voyez, j'y étais, et je lui ai ramené la somme d'argent. J'ai dit, voilà, la patronne me voit arriver, tiens, qu'est-ce que tu fais là? Et puis j'ai dit, voilà, je suis pasteur. Ah bon? T'es malade? Non. Et j'ai amené l'enveloppe, j'ai dit, vous savez, quand je travaillais chez vous, parce que je travaillais à ce magasin, quand je travaillais chez vous, eh bien, je vous ai volé des trucs, des outils, enfin, il n'y avait pas que la télé. Eh bien, je vous le... Mais une joie. Je lui ai donné une Bible. Et elle m'a juste dit, ah, ça serait bien que tous les employés soient comme toi.
Cette femme, elle est millionnaire. Elle n'avait pas besoin d'une petite somme, de la valeur d'une télé. Mais je crois que Dieu m'a éprouvé. Je crois que Dieu m'a éprouvé. Je n'ai pas honte de vous le dire parce que je... Est-ce que c'était pardonné, ça, en fait? Est-ce que Dieu m'avait pardonné? Dieu m'a pardonné. Mais voyez, ça devenait comme un caillou qui remontait à la surface. Demandez aux paysans, arrêtez-vous quand vous verrez un jour un laboureur. Prenez le temps et dites, je viens de la part de mon pasteur qui m'a demandé, est-ce que quand vous passez la charrue, il y a des pierres qui remontent au fur et à mesure des années? Vous verrez ce qu'il vous dira. C'est quelque chose d'étonnant. Il y a même un agriculteur en Angleterre, au bout de plusieurs années, il a déterré un trésor. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la télé. Il a déterré un trésor. Oui, ça vaut la peine. Mais ce n'est pas toujours des trésors qui remontent. Mais voyez, mes frères et sœurs, le Seigneur, il vous aime à chacun individuellement. Il connaît votre terrain, votre cœur. Il sait ce qu'il y a. Peut-être, mais ça, je l'ai réglé. Est-ce que tu l'as réglé comme Dieu te l'a demandé? Parce que, voyez, on n'a pas le temps de tout voir. Mais quand il demande de semer comme il faut, il dit, il est temps de chercher l'Éternel. La solution pour semer, pour travailler, pour labourer, pour que le travail se fasse, pour que le cœur honnête et bon se mette à jour, parce qu'il n'y a aucun terrain qui devient bon naturellement. Vous n'avez jamais vu un terrain bon, honnête, naturellement. Tous les terrains qui portent du fruit sont tous des terrains travaillés. C'est pour ça qu'il est dit, il est temps de chercher l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il vienne, il y a toujours une conséquence. Et jusqu'à ce qu'il répande la justice. Peut-être que vous allez chercher Dieu, peut-être qu'il ne va pas répandre la justice de suite. Vous comprenez ce que je veux dire? Jusqu'à ce qu'il répande. Peut-être que vous cherchez Dieu depuis un an et Dieu n'a pas encore répandu la justice. Est-ce que Dieu peut le permettre ça? Il dit, jusqu'à ce qu'il répande. Et si vous êtes patient, si vous dites, j'accepte, oui, il y a du temps qui s'est passé. Ah, j'aurais aimé que la pluie tombe de suite. J'aurais aimé que le blé pousse de suite. Mais je te fais confiance, Seigneur. C'est ça un cœur honnête. Tu as dit que tu enverrais la bénédiction. Tu as dit que tu répandrais la pluie. Ça fait quand même quelques mois que j'attends. Je crois que tu le feras. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Il est temps de chercher l'Éternel. Et si vous êtes chrétien, si vous êtes sérieux, si vous êtes honnête et bon, eh bien quand vous lisez la Bible, dites, Seigneur, parle-moi. Je vais lire ce texte, je vais le méditer, demain j'y reviendrai s'il le faut, ou je continuerai ma lecture dans le même livre. Seigneur, je veux ce cœur honnête. Seigneur, donne-moi un cœur honnête. Dieu dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Vous croyez qu'on peut, on tord les Écritures en disant à Dieu, si quelqu'un veut un cœur honnête, qu'il le demande à Dieu? Est-ce que vous croyez qu'on peut passer de la malhonnêteté à l'honnêteté? Est-ce qu'on peut passer du mensonge à la vérité? Est-ce qu'on peut passer de la dureté à la tendresse? Eh oui, c'est écrit dans la parole. Et le Seigneur, il nous aidera. On voit bien, quand on connaît Dieu, écoutez, à force de lire la Bible, on voit bien que Dieu, il est tout le temps là pour nous pousser à nous bénir. Et même s'il est sévère, on voit bien que derrière, il n'y a qu'une intention, celle de bénir l'Église, de bénir son peuple. Il nous reprend avec sévérité, il n'y a qu'une intention, chaque fois, c'est que nous puissions porter du fruit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors demandons à Dieu ce cœur honnête. Et s'il y a des pierres, ne nous amusons pas à mettre un peu de terre dessus, vous savez? Il y en a qui savent le faire, ça. L'apparence. Oui, ça va bien, tout va bien. Alors que ça ne va pas. Alors, ce n'est pas parce qu'on a des épreuves que ça ne va pas. Je parle quand ça ne va pas à cause du péché. Il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur. Je réclame ton aide. Je réclame ton aide. Tout le terrain est en friche. Tout le terrain. Où que je me tourne, il y a des épines partout. Eh bien, je vais prendre courage, Seigneur. Et tu vas m'aider. Mon cœur entier est couvert de péchés, de misère. Est-ce que le Seigneur peut pardonner tous les péchés? Est-ce que le Seigneur peut vous aider, vous qui n'êtes pas encore sauvés? Il est temps de chercher l'Éternel. Et je vais terminer avec un verset, parce que ce verset était sur mon cœur quand j'ai préparé la prédication. C'est dans 2 Corinthiens. Parce que vous savez, il est temps de chercher l'Éternel. Vous pouvez le recouper avec ce verset qu'on va lire dans 2 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 2. Car il y a un temps pour Dieu. Un temps pour Dieu et un temps pour nous. Est-ce que vous le savez? Il y a, Dieu sait quel est le meilleur temps pour quelqu'un. Est-ce que vous le croyez? Eh oui. Rien que par rapport au fait que notre vie ne nous appartient pas. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Car il dit, c'est Dieu qui parle bien entendu, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Et que peut-être ce soir, pour quelqu'un, c'est ce temps favorable. Qui sait si dans votre cœur, dans quelques jours, votre cœur ne sera pas plus endurci? Peut-être que ce soir, votre cœur est ouvert. Dieu le voit. C'est pour ça qu'il m'a inspiré par cette prédication. C'est comme si Dieu vous disait ce soir, mais c'est ton temps ce soir. Tu es encore sensible. Tu es encore tendre. Tu as toujours un cœur d'adolescent, d'enfant. Tu écoutes. Mais Dieu sait que peut-être dans un mois, vous n'écouterez plus rien. Parce qu'il y a déjà, ils le disent, moi j'écoute plus personne. Vous l'avez entendu ça? Moi je tiens que je fais ce que je veux. Ce n'est plus le temps favorable. Ce n'est plus le jour du salut, c'est le jour du jugement. Comme pour Belshazzar, quand il s'est vu écrire sur le mur de la salle à manger, voilà, peser, peser, compter et diviser. Voilà, t'as été pesé, et bien t'as été trouvé léger. Et quand était le temps, t'es passé à côté. Quand Dieu dit, voilà, il est temps de chercher l'Éternel, c'est le moment favorable. Si vous êtes dans un bon état d'esprit, peut-être que ça fait plusieurs temps que vous discutez avec des chrétiens, votre famille chrétienne vous aide, vous encourage, votre cœur s'est attendri, c'est le temps favorable. Et puis, vous ne savez pas si vous n'allez pas partir. Qui peut dire, demain, je serai là? Personne. Mais moi, je suis en bonne santé. Et bien, ça ne veut rien dire. Peut-être tous les malades vous enterreront. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je disais ça à un ami, Albi, qui était malade, qui est malade depuis des années. Il était venu me trouver. Il me dit, voilà, je suis malade, j'ai le cancer. Je lui ai dit, vous savez, vous enterrerez les gens en bonne santé. Et à l'enterrement de Jean-Marc, il est venu me trouver. Il me dit, vous aviez bien raison. Ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on va mourir, ce n'est pas parce qu'on est en bonne santé qu'on va vivre. Et Dieu, il le sait. Et ce n'est pas du chantage, ce n'est pas de la pression. Honte au prédicateur qui utiliserait cette vérité pour mettre la pression sur les gens. Vous êtes d'accord? Mais c'est quand même une vérité. Et quand Dieu dit, il y a un moment favorable, il y a un temps favorable, il y a un moment de grâce, c'est parce que ce moment, il peut passer. Alors on va fermer les yeux quelques instants. Autant pour le chrétien que pour celui qui ne connaît pas encore le Seigneur. Il y a un temps favorable. Vous pouvez ce soir dire, oh Seigneur, aide-moi, attendris mon cœur. Tout mon cœur est en friche, tout mon cœur est dur. Mais Dieu, il ne vous dit pas ça pour vous juger, il dit ça pour vous aider. Y a-t-il quelqu'un qui veut un cœur honnête et bon, un cœur qui porte du fruit? Ne recevez pas juste avec joie. Il y a des gens, ils viennent ici, c'est comme ça. On vient dans votre église, on aime vos prédications, voilà, mais ils ne se convertissent pas. Ils sont dans la catégorie du deuxième terrain. Ils écoutent la parole de Dieu avec joie, mais les épines les étouffent. Les séductions les étouffent. Pas de conversion, il n'y a rien. Il y a juste un peu de joie qui s'étiole au bout de quelques heures ou de quelques jours. Ce n'est pas ça que Jésus veut. Ce que Jésus veut, c'est que nous saisissions le temps favorable au salut. Et à nous les chrétiens, le temps favorable pour porter beaucoup de fruits pour le salut des âmes.